On a besoin de gens qui créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose. Qui a dit ça ?
J'ai des travails pour les canailles, travaille pour Krumpa. Et avant de pas mourir de faim, garde tissot. L'Uma, où est la mespresse, dis une raille de souleur. Si un peu de rousse, va sa ben, garde tissot. Yes, le travail est la salut. Yes, où est l'homme plus travaille, mi crébia, l'ouvradi. Travaille pour Krumpa. Voudriez belle que sème la sienne comme toi. Nous sommes les vivants.
La ville sans nom, c'est le titre du livre de Bruno Le Dantec. En sous-titre, Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent.
Avant de dire qui a dit ça, je vais relire une autre qui lui fait écho vraiment, hein, qui a été dit à 2 siècles d'intervalle. Hein. Je crois que Marseille est incurable à jamais, à moins d'une déportation massive de tous les habitants et d'une transfusion d'hommes du Nord.
Cela fait plusieurs années que l'écrivain marseillais recense les phrases prononcées depuis plus de 300 ans, jusqu'à nos jours, par les hommes politiques et ceux engagés dans l'urbanisation de la cité phocéenne.
Qui a dit ça ? Voilà. Donc la deuxième a été prononcée en 1794, en pleine Révolution française, en pleine terreur. Et c'est Louis Fréron, qui était un proconsul envoyé par la Convention pour maté Marseille, qui avait fait les mauvais choix dans les jeux d'alliance de l'époque, et qui avait été châtié, qui a été déchu de son nom. Hein. Ça a été pendant quelques mois la ville sans nom, ce qui donne le titre au bouquin, la ville sans nom. Et l'autre phrase a été dite il y a très peu de temps. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Ça a été prononcé pas par un génocidaire, non, par un homme politique d'aujourd'hui. Ça a été prononcé le 18 novembre 2003. C'est rapporté par Le Figaro et c'est Claude Valette, adjoint au maire de Marseille, délégué à l'urbanisme, qui a dit ça.
Toujours présent.
Toujours aux affaires.
Toujours aux affaires.
Constat déplorable d'une politique qui consiste à vider le centre-ville de sa population. Bruno Le Dantec.
Donc, alors bien sûr, hein, entre les deux, il y a 2 siècles de distance et puis il y a des façons, des méthodes différentes, hein, bien sûr. Hein, Louis Fréron, quand il est arrivé en pleine terreur, il a dressé la guillotine au bas de la Canebière et il a zigouillé toute l'élite marseillaise, toutes les figures politiques marseillaises sont passées sur la guillotine. Et il y a eu en quelques heures, il y a eu 200 et quelques exécutions. Là, bien sûr, on n'en est pas là, quoi. Hein, c'est évident. Puis surtout, c'est pas les élites qui passent à la guillotine. Donc, on pourrait, par contre, sur le phénomène, c'est un phénomène de, même si le mot est fort, de déportation de population, de déplacement de population. Qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et là, il faut peut-être lire les phrases de 1943, où il y a eu la destruction, le dynamitage du vieux port. Hein, avec Pierre Laval qui disait, juste avant le dynamitage, on va épurer Marseille, qui en a bien besoin. Ou le général Auberg, donc général SS, qui disait « Marseille est le chancre de l'Europe et l'Europe ne pourra être sauvée tant qu'on n'aura pas épuré Marseille ». Là encore, bien sûr, on passe d'une époque à une autre et avec, bien sûr, une dimension dramatique, tragique en 1943 qu'il n'y a pas aujourd'hui, bien sûr. Mais on aurait tort. Sous prétexte de dire que le génocide nazi n'ayant pas eu de étant incomparable dans l'histoire, on aurait tort de l'isoler dans l'histoire. Hein, ce fait-là, hein, le dynamitage du vieux port. Et de dire que non, ça ne peut pas être comparé avec autre chose. Ça peut être comparé parce qu'il y a une logique qui est à l'œuvre. Qui est la même, qui procède d'un profond mépris pour la population, pour une population populaire, et le sentiment, l'arrogance de gestionnaires qui pensent qu'ils peuvent disposer d'une population, la déplacer. Alors bien sûr, en 1943, c'était l'envoyer dans un camp de triage à Fréjus. Et puis après, pour beaucoup d'entre eux, ça a été les wagons plombés direction Auschwitz, etc. Que ce soit les Juifs, que ce soit les résistants, les déserteurs allemands qu'on a trouvés dans ce quartier-là de la mairie. Aujourd'hui, bien sûr, encore une fois, il faut le dire, ça n'a rien à voir. Les gens n'en meurent pas, encore peu. Il doit y avoir quelques vieux qui sont expulsés de la rue de la République et qui, à mon avis, prennent un sacré coup de haut moral et donc risquent de mourir plus vite que ce que leur horloge biologique avait prévu. Mais bien sûr, la brutalité n'est pas la même, mais je pense qu'il est important de dire qu'il y a la même logique, le même mépris. Même mépris pour les gens. Là, aujourd'hui, les deux acteurs principaux sont à nouveau et toujours les pouvoirs publics, locaux et nationaux, hein, à travers en particulier le projet Euroméditerranée de restructuration des quartiers portuaires, de réhabilitation, comme ils disent, et puis les intérêts privés, la finance privée. La force d'Euroméditerranée, c'est cette alliance entre... L'argent public et l'argent privé. Et on pourrait dire aussi, troisième roue de cet attelage, la bourgeoisie locale, qui, depuis qu'elle n'a plus en main les affaires du port, s'est largement reconvertie dans le foncier, et qui est associée donc à ce projet-là aussi, en spéculant au niveau immobilier. Même si la grosse artillerie vient de fonds étrangers, hein, comme dans le cas de Lone Star, non, de Marseille République, donc, qui a racheté la moitié de la rue de la République et qui l'a fait avec des fonds de pension américains, canadiens. Donc voilà la puissance, non, la puissance qui est de feu. Qui est à l'œuvre aujourd'hui pour changer Marseille et changer Marseille dans un sens que je trouve profondément antipathique, antipopulaire et méprisant. Ouais.
Comparer ça à ce qui a pu se passer dans la plupart des villes, Marseille a toujours su résister finalement. L'âme marseillaise a toujours été là pour. Ça s'est fait tout seul finalement, où il y a quand même eu des intrusions. On va revenir, hein, mais dans ton livre, tu parles justement du centre-bourse, quand ils ont installé ce centre-bourse pour essayer de rétablir un pouvoir blanc, on va dire,
sur le fameux souk
dans le centre-ville, pour reprendre possession du centre-ville. Enfin voilà, c'est toujours à l'œuvre, c'est une tentative qui en Euroméditerranée est peut-être
l'aboutissement. Ou la dernière étape. Dernière, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas la dernière, mais c'est la plus récente. En compilant toutes ces citations donc, qui forment le corps le principal du bouquin, toutes ces citations négative, non, vraiment sanglante, méprisante pour Marseille. Hein, c'est des leitmotifs qui reviennent donc à travers les époques. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, il y a un fil rouge qui lie toutes ces citations et qui lie aussi divers projets qui ont été menés effectivement pour reconquérir, hein, le mot, on parle de reconquête, hein, du centre-ville, pour reconquérir le centre-ville. Reconquérir sur qui ? Alors, les plus démagogues, hein, comme Jean-Claude Gaudin, quand il dit le Marseille populaire, ce n'est pas le Marseille maghrébin, ce n'est pas le Marseille comorien, joue sur la fibre xénophobe, mais en fait, c'est reconquérir le centre-ville sur les classes populaires. C'est ça qui gêne et qui a gêné depuis très longtemps. Depuis la plus ancienne citation, c'est Louis XIV, c'est la citation inaugurale du fort Saint-Nicolas, hein, qui dit nous construisons ces forts pour protéger la ville de ses propres passions pour la liberté, hein, grosso modo. Donc avec des canons dirigés vers la ville. Tout ça, ça procède d'une même... donc on parle de mépris, mais c'est doublé d'une crainte.
Je crois que tu le dis.
Crainte de cette ville trop populaire, trop populeuse, trop cosmopolite, trop remuante. Mais parce qu'elle est comme ça, parce que par nature, c'est un port. C'est un port, c'est une ville ouverte. Bon, en tout cas, ça l'était. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, il y a tous ces projets-là qui ont prétendu reconquérir le centre et pour que le centre appartienne, comme dans la plupart des villes aujourd'hui, hein, les villes contemporaines, où les élites économiques puissent se pavaner à leur aise, être chez elles, pouvoir montrer en vitrine leur puissance économique, leur aura, et vendre leur ville comme, ben oui, comme on vend un produit. Hein. L'Euroméditerranée aujourd'hui est un projet énorme, c'est un vrai rouleau compresseur et on se demande s'ils ne vont pas réussir avec aussi ce que j'appelle le cheval de Troie du tramway aussi, qui a occasionné des travaux à n'en plus finir, fort onéreux pour l'argent public et qui en fait servent des intérêts privés malheureusement et qui ne vont pas améliorer grand chose des problèmes de transport à Marseille. Donc il y a à l'œuvre un rouleau compresseur assez impressionnant aujourd'hui. Mais effectivement, on peut se dire qu'ils ne réussiront pas à 100%. Comme de la même manière que effectivement la construction du centre bourse et du World Trade Center, comme ils disent dans les années 70, n'a pas attiré les grandes multinationales pour y installer leur siège. De la même manière que la destruction du vieux port n'a pas complètement éradiqué le Marseille populaire, même si elle l'a profondément blessé et appauvri, culturellement, architecturellement, etc. Mais chaque fois, ça a été ou la percée de la rue de la République par Haussmann. Hein, c'est pareil aussi. C'est toujours, c'était fait pour les armateurs. C'était percé au milieu des quartiers les plus anciens. Avec une destruction énorme aussi à l'époque. Chaque fois, la bourgeoisie ne s'est pas portée là, elle n'est pas venue. On va voir là si maintenant, aujourd'hui, avec, en chassant comme ils le font de manière vraiment scandaleuse la population populaire qui vivait sur cette rue majestueuse, est-ce qu'ils vont réussir à attirer les classes moyennes, hautes, hein, dont ils rêvent? Moi, je pose la question dans la préface, dans l'introduction du bouquin.
Quel cadre pour qui?
Les 10 000 cadres dont ils rêvent pour peupler cette artère haussmannienne, ils vont les trouver où? Et ces 10 000 cadres pour encadrer quoi? Quelle activité économique? C'est beaucoup sur du vent, hein, qu'on construit ça.
Je partage entièrement ce que vient d'affirmer le président du Conseil général. J'approuve également son initiative dès le début de l'opération et je félicite l'ensemble des associations qui ont joué un rôle primordial. Mais je pense que nous sommes arrivés à la limite du supportable. C'est une atteinte à la dignité humaine que nous ne pouvons plus accepter. Et nous avons vécu, et j'ai vécu moi, avec beaucoup de rescapés qui sont venus justement s'installer à la Grande Rue, à la rue Chevalier-Rose, à la rue Lévesque. J'ai vécu la tragédie de 43. On est en train, d'une façon déguisée, de vouloir expulser la population de ce secteur. Il faut se battre jusqu'au bout. Les élus en tête, mais surtout, c'est une atteinte à la morale, à la dignité humaine. Et ça, on n'a pas le droit de tourmenter les gens. On les tourmente, on les harcèle, on les tourmente. Et j'en veux à tout le monde, et j'en veux aussi à la municipalité, qui est complice dans cette affaire-là. Jamais elle aurait dû accepter ces transactions.
C'est un livre que tu viens de sortir, qui vient de sortir en début mai.
Oui.
Mai 2007, il est tout frais.
Il sent l'imprimerie.
Et donc c'est une réadaptation d'un premier jet que tu as fait dans un livre que tu as sorti avec Antoine Dagata, qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelait Psychogéographie, qui était...
Sorti en décembre 2005,
voilà.
Si je ne m'abuse.
C'était ça.
Et oui, c'est un livre donc de photos, de photomontage d'Antoine Dagata et avec la plupart des citations de ces citations-là et une postface signée par moi.
Voilà.
C'était un bouquin chez le Point du Jour.
Alors qu'est-ce qui t'a emmené à sortir à part ce petit pamphlet?
L'idée, c'est donc là, ce bouquin là maintenant n'est plus signé que par moi, étant donné qu'il n'y a plus de photos. Mais je sais que Antoine Dagata est très content de la sortie de ce bouquin là aussi, parce que c'était un peu notre frustration. On était content du résultat. L'histoire du premier bouquin Psychogéographie est longue. Hein, il faudrait revenir sur la commande publique d'Euro Méditerranée qui avait commandé donc des photos à Antoine. Etc. Mais
vous aviez une. Vous faites quoi exactement?
Je fais une interview.
Oui, mais vous avez une autorisation?
Il me l'a donné, oui. Mmh. Je peux vous interviewer.
Je suis écrivain.
Non, mais normalement, il faut une autorisation.
Pour enregistrer dans un parc.
Je fais pas de photo, hein, c'est juste du son. Hein.
Mmh. C'est pareil. Mmh. Vous n'avez pas pour longtemps?
Non.
Ah non,
on a fini.
Non, on a bientôt fini.
Merci. Et donc, où j'en étais? Oui, donc on avait envie que ce bouquin, qui est un beau livre, donc Psychogéographie, c'est ce qu'on appelle un beau livre, un livre de photos, qui vaut 30 euros, on aurait voulu quand même qu'il soit plus accessible, parce qu'on trouve important cette vision en négatif de la ville, cette vision donc à travers les paroles... des gens qui veulent du mal à cette ville, selon nous, on aurait voulu qu'elle soit plus abordable.
Plus abordable.
Et de fait, donc, on l'a sorti en format un peu de poche, hein, donc à 7 euros, sans les photos, un truc plus abordable, plus maniable, avec un titre aussi plus explicite, donc c'est La ville sans nom, Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent, C'est donc une démarche un peu atypique, c'est on donne la parole à l'ennemi en fait, comme je dis en quatrième de couverture, quoi. C'est comme pour un combat d'art martial, on utilise l'élan et le poids de l'adversaire pour le déstabiliser. On a en face de nous des gens qui ont une puissance de feu médiatique, financière, politique énorme. Nous, on est peu de choses face à eux, mais en les laissant parler, en mettant en évidence leur vrai discours, on dresse un portrait intéressant des enjeux de la politique urbaine à Marseille aujourd'hui. Comme tu le disais, les citations, là, par exemple, de Jean-Claude Gaudin ou de M. Valette, le délégué à l'urbanisme, ils ne les font pas dans la presse locale. Ils ne les font pas en campagne électorale pour les municipales, sinon les Marseillais risqueraient de mal le prendre. Quand Claude Valette dit qu'il veut se débarrasser de la moitié des habitants de la ville, il le déclare donc au Figaro, un journal qui n'est pratiquement pas lu à Marseille. Et de la même manière, la phrase de Jean-Claude Gaudin qui dit que le Marseille populaire, ce n'est pas le Marseille maghrébin ni le Marseille comorien, il l'a dit à La Tribune, un journal économique, un journal aussi de cadres, d'investisseurs. Il s'adresse aux investisseurs. Il veut rassurer et attirer des investisseurs. Il s'adresse à eux sur le ton de la connivence, en complice et dans le dos de la population marseillaise. Il ne compte pas que cette phrase soit lue et placardée sur les murs de Marseille, ce que nous avons fait pour présenter Psychogéographie.
Vous avez entendu un extrait d'archives d'une émission que nous avons fait il y a quelque temps sur la rue de la République. La musique, c'est Dupin, Les Vivants, ainsi que Gotham Project avec Sous le Soleil. Une ville sans nom, c'est le titre donc du livre de Bruno Le Dantec que vous venez d'entendre, en sous-titre Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent. Ça vient de sortir et c'est paru au Chien Rouge.
Looking down at a worm with a long...